citer encore quelques noms de ces grands capitaines d'industrie qui illustrent ce Second Empire. Alors il y a les Darblay par exemple, Darblay le jeune et Jean-Baptiste Monod. Je les ai cités peut-être, papier, farine et textile, les Talabots vont le faire. Moi j'en ai parlé encore une fois. Donc il y a Achille Fould dont le frère était banquier, qui lui, Achille était au gouvernement, était ministre. Hein. Voilà. Louis Hachette, hein, le livre, voilà, c'est l'industrie du livre. Et puis, alors, les CEP, j'en ai parlé, qui réalise ce canal de Suez, hein, qui est aussi maître au compte de l'Empire, hein, du Second Empire. Voilà. Il y a un financement français, enfin voilà. Et c'est une pensée, c'est un ingénieur français. Alors c'est Polytechnique qui est aussi le symbole de cette époque. C'est l'apparition de l'école Polytechnique. C'est les ingénieurs. Voilà. Alors les frères Pereire, je n'y reviens pas. Il y a également le début de l'électricité. À l'époque 1849, c'est plutôt expérimental. Hein. On l'utilise pour illuminer l'Opéra de Paris. Plutôt pour une scène de l'Opéra de Paris. Mais l'électricité est utilisée pour le télégraphe, surtout. Voilà. Et puis, donc, c'est donc une nouvelle élite. Donc, les Rothschild, je reviens pas, ils sont toujours présents, mais ils sont un peu. S'inscrivent dans le passé. D'ailleurs, ils servaient plutôt l'ancien régime, hein, Charles X. Voilà. Et puis, alors, c'est ce saint-simonisme, hein, qui prône une société industrielle, une société de production, avec la valeur travail au plus haut, la hiérarchie, bien sûr, l'ingénieur, les sciences de l'ingénieur, les sciences, les technologies. Voilà. Et puis les voies de communication. Hein. Et sa doctrine prévoit, d'ailleurs, c'était bien sûr une utopie, des députés techniques, entre guillemets. Voilà. Alors, quelques noms encore. Bon, les Talabots, Edmond et Jules Talabot, c'est les forges d'engins, hein, d'Anzin, excusez-moi. Hein, les Schneider, dont Schneider sera, dit le grand, sera président du corps législatif. Parce que le Parlement, à l'époque, pour le régime politique, j'en ai assez peu parlé, c'est quand même, il y a le corps législatif, il y a le Conseil d'État qui participe aux lois, hein, le corps législatif qui les rédige, qui a un pouvoir législatif mais très restreint, on ne discute pas. Il n'y a pas non plus, d'interpellation, il n'y a pas de responsabilité des ministres, hein, devant le Parlement. Il y a un Sénat, mais c'est un Parlement croupion, on va dire. Hein. C'est vraiment un régime autoritaire. Hein. Donc les Schneider-Creusot, hein, on sait, ici, c'est célèbre. Il y a aussi les Aciéries, Pétain et Godet. Dès 1864, entre Saint-Étienne et Lyon, vers Saint-Chamond, par une concentration de petites entreprises, c'est donc la compagnie des hauts fourneaux, forges et aciéries, hein, qui travaillent pour la marine, pour les chemins de fer. Voilà. Les deux premiers canons français en sortent, hein, la Nivernaise et la Marie, je ne sais plus, j'arrive pas à me relire, pardonnez-moi. Donc c'est deux prénoms féminins, voilà. Donc on a aussi dans le Nord, hein, les aciéries aussi, le fonte et acier, voilà, se développe aussi. Et puis fer et acier, ça sera la lutte du fer et de l'acier, ça sera l'acier qui vaincra au final, hein, aussi bien pour les chemins de fer, ça sera l'acier qui va, ou les viaducs, etc., qui va se substituer au fer, hein, sur les navires, etc. Voilà. Alors la bourse de Paris aussi est très, très vivante, mais il y a aussi des bourses en province, hein, il y a diverses bourses. Voilà. L'argent circule, mais les activités circulent, on crée des emplois. Voilà. Naissance du Crédit Lyonnais en 1864. Voilà. Donc il y a ces grandes familles toujours qui s'illustrent dans l'industrie. Les Cochelaine, les Jean-Baptiste Motte, hein, à Roubaix pour le textile. Les Cochelaine, c'est dans l'Est, hein, c'est des manufactures. On parlera du système Hoth, hein, voilà. C'est une technique, une chaîne familiale d'usines. Voilà. Les Worms, dont Hippolyte, hein, qui s'illustre dans le plâtre, hein, notamment, mais aussi plus tard dans les chemins de fer. Hein. Donc, alors Worms, ça, il aura des dépôts de chemin de fer à Bourges, Vierzon, Rouen, etc. Et il va exporter vers l'Angleterre le plâtre et il importe le charbon d'Angleterre. Voilà. Il aura des installations, y compris, je crois, à Cardiff notamment, et puis à Marseille. Il participera au canal de Suez, il fournira le charbon pour les chantiers du canal de Suez. Il aura sa propre flotte, voilà. Les Darblay. Les Darblay frères, hein, dont Darblay le jeune, voilà, qui fondent là, c'est dans les grains, les farines, voilà, et qui auront des comptoirs en Grèce et en Égypte, et qui prônent, on va dire, dans le dictionnaire Larousse, qui naît à cette époque, on les qualifie comme des innovateurs, mais on a vu que Boussicaut aussi en fait partie, on est un exemple illustre du commerce dit intelligent, voilà. Donc, ils achètent des moulins à papier et ils vont devenir un moulin à papier en déconfiture et ils vont, à partir de là, devenir des grands papetiers. Hein. Voilà. Donc, et puis Haussmann et sa reconstruction de Paris. Voilà. J'ai envie de vous lire un petit texte pour conclure, pour illustrer. Alors, il y avait aussi des critiques sur les grands magasins innovés par... donc le Bon Marché, puis les autres qui ont suivi. Hein. Et il y avait toujours des contestataires. Hein. Alors je prends un petit exemple d'un critique qui, sur le ton de la plaisanterie, alors il présente la situation quand une pratique féminine se montre un peu récalcitrante, on détache sur elle, à titre de renfort, un auxiliaire indispensable de tout magasin bien monté. C'est l'employé joli garçon. Cela soit dit, sans vouloir ravaler le mérite des autres. Ces messieurs, j'en conviens, sont de fort jolis hommes. Mais l'employé que je viens de dire est le primus inter pares. C'est l'antinous du comptoir. C'est la jeune garde qui ne donne que dans les instants décisifs. Doué d'une puissance fascinatrice, l'employé joli garçon est blond. Il a la bouche en cerise, les moustaches en accroche-cœur, l'œil gros et bleu, à fleur de tête, l'oreille rouge, le teint fleuri, lorgnon dans l'œil, tenue sévère de gentilhomme sans cheval, il grasseille et parle des bouffes. Il est d'un effet foudroyant sur les grisettes et les rentières, mais il lui arrive quelquefois de s'attaquer aux grandes dames, et c'est avec moins d'agrément. On a vu parfois la jeune garde enfoncée sur toute la ligne. Voici un joli mot de marquise que l'on nous conte à ce sujet. Une femme d'esprit du monde avait pris fantaisie d'un châle. Elle ne s'était pas décidée. À quelques jours de là, elle revient et demande à revoir son châle. Le chef d'établissement reconnaît parfaitement la dame. Donc une grande dame en l'occurrence, et plus, comment dire, qui a l'œil un peu plus ironique, enfin qui est plus distancié, qui se laisse moins convaincre qu'en a vu d'autres. Et l'Apollon pareillement qui s'exalte dans ses moustaches. C'est le cachemire fond vert, oui monsieur, c'est celui que monsieur Arthur a eu l'honneur d'offrir à madame. Monsieur Arthur prend la pose. Qu'est-ce que monsieur Arthur, dit la dame intriguée. C'est un de nos meilleurs commis. Notre premier, un grand jeune homme blond, physique distingué, bonne tenue, manière parfaite. Ma foi, monsieur, reprend la dame, je sais de quelle couleur est le châle, mais je vous avoue humblement que je n'ai pas pris garde à celle du commis. Donc le cachemire, toutefois, la dame est un peu narquoise, mais la dame achète toutefois, payée et livrée le même jour. La jeune garde avait cru vaincre, elle tombe à plat, bon, mais elle réussit quand même au bout du compte. Voilà, donc c'est une critique, mais on sait que c'est pas tout à fait le cas, puisque là, c'est le client est libre dans ces grands magasins. C'est toute la nouveauté, il a le choix. Donc, dernière émission, mardi prochain, je parlerai de la chute, hein. La gloire du Second Empire, on verra sur quelques feux, les scènes superbes, les crinolines, Offenbach, etc., le luxe, et puis je vous parlerai de la chute, et notamment cette fameuse dépêche d'Ems qui provoque la guerre avec la Prusse, et de cette guerre 1870, encore une fois, ça sera la défaite et l'effondrement de ce brillant Second Empire. À bientôt, chers auditeurs et amis. Chers amis auditeurs, chers auditeurs et amis.